Midi 30, 14h.
La France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant 60 minutes, nous allons vous montrer que les Français ont des idées, qu'ils savent les développer et vous êtes les acteurs de ce changement. Aujourd'hui, on joue au foot depuis ce matin, journée spéciale bleue sur Europe 1. Match décisif ce soir au Parc des Princes à l'occasion des quarts de finale de la Coupe du Monde féminine de football. Les Bleus joueront face aux Américaines à cette occasion. Nous vous présentons des initiatives, des associations qui encouragent la mixité dans les clubs de foot. Elle est née en 1844. Ce sont eux, la salopette de Sophie Marceau dans La Boum ou celle que portait Coluche. La Fond, c'est l'entreprise qui va bien, merci. Canicule, jour 5, pourquoi ne pas louer un jardin seul ou à plusieurs pour se mettre un peu au frais ? Jardin-privé.com est la solution du jour. Et c'est ça, la France qui bouge.
Europe 1.
39-21, tous les jours, entre 13h et 14h, nous mettons en avant les initiatives des Françaises et des Français qui ont choisi de faire bouger les choses dans notre beau pays. Ce soir, les Bleus seront face aux tenantes du titre, les Américaines, pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de foot. Des acteurs français ont trouvé des solutions pour que l'égalité homme-femme soit aussi présente dans le foot. Justine, on attend toutes les questions.
Bien sûr, on vous attend à n'importe quel moment. Vous pouvez participer jusqu'à 14h. Alors pour ça, vous avez soit le 39-21, 50 centimes la minute, ou alors vous pouvez nous envoyer des messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou encore sur europe1.fr.
Et pour les accueillir dans le studio Lagardère, Maude Descamps de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Maude.
Bonjour Elisabeth.
Vous allez nous donner plein d'infos au fur et à mesure de l'émission autour du foot et du foot féminin notamment. Notre coach du jour, bonjour.
Bonjour.
J'ai le plaisir d'accueillir Hélène Valade, directrice du développement durable de Suez et présidente de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Elle remplissait les stades dans les années 20 avant d'être renvoyée au fourneau. Des décennies plus tard, ce fut la lutte pour regagner du terrain et ce n'est pas encore gagné. Bonjour Nicolas Barre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de l'association Liberté aux joueuses. Alors pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes ancienne joueuse internationale de football, 8 fois championne de France, meilleure buteuse du championnat de France en 1983 et vous avez fondé Liberté aux joueuses, cette association qui défend les droits des femmes dans le sport. Ça fait 30 ans que vous intervenez dans des associations, dans des grands groupes à l'éducation nationale. Comment vous en êtes arrivée là ?
Eh bien, tout simplement, j'en suis arrivée là parce qu'un jour, j'ai été confrontée à une situation de discrimination active. Voilà.
C'est-à-dire active.
Dans un club de football, en 1996, 97, 98, et ça se termine en 98, le président du club et son bureau ont décidé que les féminines qui avaient une ambition d'accession au niveau national n'avaient pas la possibilité de s'exprimer. Ils choisissaient délibérément, ils l'ont dit et ils l'ont écrit, les garçons qui jouaient deux niveaux en dessous des filles.
C'était au club de Plessis-Robinson, dans la Haute-Seine.
Voilà.
Donc, délibérément, il dit pas de filles dans le club.
Et ils ont décidé, donc, à la sortie d'un conflit qui a été mal géré, finalement, de se séparer de toutes les équipes féminines à la fin d'une assemblée générale. Et ce qui m'a permis, moi, de mettre en colère, parce que parfois il faut savoir se mettre en colère, c'est que j'avais à côté de moi des petites filles. Pour moi, c'était pas très grave ce qui se passait, parce
oui,
que
vous étiez
je connaissais déjà. Voilà. Oui. Mais pour ces petites filles, j'avais pas envie qu'elles croient que c'était normal ce qui était en train de se passer, comme moi j'avais pu croire pendant des années que le racisme c'était normal. Parce que racisme et sexisme, voilà, ça finit par les mêmes lettres, et ça produit les mêmes effets dévastateurs sur la construction du soi, et sur l'estime de soi et la personnalité.
Donc vous êtes sentie investie d'une mission, c'est-à-dire vous,
oui.
Vous avez été professionnelle, Et vous avez voulu pouvoir que ça puisse perdurer et ne pas qu'on évince les petites filles comme ça. Comment vous avez fait ?
En fait, moi, j'ai jamais été professionnelle parce que si on l'entend dans le sens où j'ai gagné de l'argent, je n'ai jamais gagné d'argent.
Jamais.
J'ai toujours travaillé, j'ai fait mes entraînements le soir et je jouais le week-end. J'étais très investie, on va dire, sur le haut niveau, mais jamais professionnelle. En fait, ce dont nous avions peur, nous, à l'époque, c'était de ne pas jouer. Notre attente, notre envie, c'était de pouvoir exprimer notre passion et on n'avait qu'une peur, c'est qu'on nous exclue justement des clubs. Et donc, on s'est toujours contenté, conformé, et si tant est qu'on relevait des situations pas très égalitaires, on préférait s'en satisfaire parce que l'essentiel, c'était de jouer. Mais là, pour ces petites filles, c'était différent. C'est-à-dire, du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, on leur disait ben, « au mois de septembre, vous ne revenez plus ».
Alors, vous avez gagné ?
Et on a gagné. C'est une jurisprudence française et européenne. C'est la première fois donc, que des femmes se mobilisent avec les parents pour faire sanctionner dans le cadre des textes qui existent, cette situation. Alors, ça n'a pas été une discrimination sur le genre, mais malgré tout, le juge a sanctionné le club de football.
Alors là, ça se passe en 1998.
En pleine Coupe du Monde.
Oui. Qui se passe en France.
Exactement. C'est en mai 98. Rendez compte.
Et ben c'est incroyable. Et oui. Du coup, vous montez au combat. Vous faites ce procès pour discrimination.
Oui.
Le club est condamné.
Oui.
Et vous vous dites, je vais continuer à me battre. Pour créez cette association,
oui,
pour trouver des fonds pour ce procès, justement.
Exactement. Bon, là, c'est l'occasion de remercier les réseaux de femmes qui se fédèrent et se mobilisent.
Très présents à l'époque.
Hein. Notamment les chiennes de garde, qui déjà étaient bien, bien vivantes à ce moment-là. Elles émergeaient. Il y a deux jours, j'étais avec Femmes Solidaires. Femmes Solidaires, il y a 30 ans, étaient déjà là à mes côtés pour me soutenir et soutenir cette cause. Je suis très, très heureuse d'avoir pu mener ce combat parce qu'en fait, finalement, il y a un bénéfice secondaire important, c'est qu'on a intégré que le sport était un objet essentiel de la conquête de l'égalité et non pas quelque chose de secondaire. C'est pas grave si les filles font pas de sport ou si les femmes. Voilà, exactement. Ça commence par le sport et ça devrait continuer toute la vie dans le sport.
Et c'est le combat que vous faites au sein de Liberté aux Joueuses.
Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le président du club était lui aussi imprégné de ces stéréotypes. Alors la colère de départ qui dit « Ah, c'est un méchant macho », je me suis rendu compte que c'était pas ça du tout. C'est que les hommes et les femmes, les petits garçons et les petites filles, on baigne dans les stéréotypes et qu'on se conforme tous et toutes à ce type de comportement.
Maud ?
Oui, une petite question. Vous remerciez les femmes qui vous ont accompagnées dans ce combat, mais est-ce qu'il y avait des hommes déjà à l'époque qui vous soutenaient également dans cette bataille ?
Alors, il y a eu quelques hommes qui étaient d'abord les parents, ça c'est un peu plus facile parce que c'est pour leurs enfants, mais s'il y a eu des hommes, c'était plutôt dans les médias. Et si je dois dire un grand, grand merci à cette époque-là, déjà, on dit que c'est un pouvoir, les médias. Mais franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Et les hommes qui étaient dans les médias, qui m'ont interviewé, ont vraiment bien répertorié les choses.
Et depuis, au Plessis Robinson, il y a des petites filles qui jouent au foot ?
Je sais pas. J'avoue que je sais
vous
pas.
Avez,
peut-être qu'ils ont.
Vous l'avez rayé de la
non,
carte.
J'ai complètement oublié ce club. J'en ai construit un autre à Bagneux. Il a fallu trouver une ville qui nous accueille. C'est pas facile de recréer un club.
Ouais, on a l'impression
zéro,
que tout est simple, mais on en a encore très, très loin.
C'est pas simple du tout.
Que dit notre coach, Hélène Valade ?
Alors d'abord, beaucoup de questions. Comment ça marche exactement votre association ? Est-ce qu'il y a des petites filles et des petits garçons ? À partir de quel âge vous en occupez ? Et puis au regard de votre merveilleuse expérience, 30 ans, est-ce que vous constatez que ces stéréotypes sont en train quand même un peu d'évoluer et sont fragilisés ?
Alors on va commencer par la première question. Comment ça marche votre association ? Vous travaillez avec des enfants de 4 et 6 ans, je crois ?
Voilà, en
comment
fait, je propose une prestation avec le soutien d'une intervenante qui est diplômée d'État, parce qu'il faut être diplômé pour pouvoir rentrer dans les établissements scolaires. Et donc, en fait, on fonctionne soit sur le temps scolaire, soit sur le temps de midi. Et on arrive et on propose une action toute prête, mais je refuse de la faire si les adultes référents...
Oui, parce que vous dites si on ne change pas les adultes, on ne changera jamais les enfants. Donc, il faut que les adultes référents
tous les enfants,
soient
tout, voilà.
Impliqués.
Tous les adultes, les ATSEM aussi, les personnes qui donnent à manger les repas avec des 4-6 ans, qui leur font faire dodo. Et donc, je commence d'abord cette action par prendre une petite temps de formation pour les adultes. Et ensuite, je demande d'avoir une référente qui assiste à toutes les interventions et à toutes les séances parce que je veux l'amener à ouvrir les yeux et à se rendre compte par elle-même des conditions dans lesquelles les enfants se comportent, filles et garçons, de façon très différenciée, a fortiori sur la partie activité motrice, espace et jeux de ballon.
Alors par exemple, quel type d'activité vous leur faites faire ?
Alors c'est des tout petits, hein, ils croient tous qu'ils vont faire du foot, les garçons vont faire du foot. Non, en fait, on fait la forêt magique, on fait l'horloge, on fait le poulailler, tous ces petits jeux éducatifs, mais je les complète. Par exemple, le poulailler, vous avez deux camps, vous êtes censé amener des œufs d'un camp à l'autre et puis on compte les œufs à la fin d'un temps. Eh bien moi, je leur fais faire de plusieurs façons. Alors ils le portent avec les mains, mais après ils le prennent avec les pieds. Filles et garçons ensemble, parce qu'en fait, il faut développer des aptitudes. Dans le ventre de maman, le petit garçon, il ne sait pas jouer au football. Ce sont des apprentissages, et pour tout, c'est pareil. Voilà, il faut juste leur donner le temps d'apprendre.
Et là, les petits garçons ne disent pas non, c'est pas pour les petites filles.
Non, parce que 4-6 ans, j'adore dire qu'ils sont tendres. Ils vous expriment les stéréotypes.
Déjà.
Ah oui, c'est ahurissant.
Par exemple.
À vaisselle, c'est maman, voiture, c'est papa. Voilà, c'est des choses. Les poupées, c'est pour les filles, alors que Action Man, c'est une poupée, hein, si on va jusqu'au bout du raisonnement. Donc, ils sont déjà dans leurs stéréotypes, mais ils sont encore tout tendres. Donc, si vous arrivez avec de la joie, de la bonne humeur, sans culpabilité, juste pour les amener à réfléchir, pour qu'ils se rendent compte que finalement, la bonne réponse à la question « Est-ce que c'est pour les filles ou est-ce que c'est pour les garçons ?» ils répondent « C'est les deux », ben moi j'ai
Vous
gagné,
avez
je suis contente.
Gagné.
Et il faut continuer ensuite sur la durée, et c'était les ABCD de l'égalité.
On va continuer justement à en parler, à parler foot au féminin, mais aussi au masculin.
Il est 13h11.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Promouvoir l'égalité homme-femme en entreprise à travers le sport, telle est l'ambition de Foot Elle. Restez avec nous.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge avec Elisabeth Assayag sur Europe 1. Elisabeth qui s'intéresse aujourd'hui aux initiatives françaises pour promouvoir le foot féminin et mixte. Alors si vous en connaissez, justement, on vous écoute bien sûr au 39-21, 50 centimes la minute.
Promouvoir l'égalité homme-femme dans le sport, c'est ce que vous faites au quotidien. Bonjour Marianne Gazot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la présidente de Foot Elle, elle au pluriel. Foot Elle, c'est un média, c'est un site internet qui met en avant le foot féminin. C'est votre entreprise, Sésame Consultant, qui a mis en place ce média citoyen. En tant que chef d'entreprise, c'était important pour vous de donner un sens et surtout de créer ce projet citoyen. Je crois que c'était il y a 7 ans.
Effectivement, alors c'est Foot Elle.
Foot Elle.
Sésame, c'est une petite société de conseil en développement qui aide les entreprises à se développer à l'international. Nous sommes 10, donc c'est vraiment une petite TPE. Et dès le début, donc, qui est créée il y a 20 ans, et il y a toujours eu ce côté engagement, c'est-à-dire d'aider des associations, d'aider des jeunes, enfin, parmi nos proches, pour les remettre un peu dans le monde du travail. Et il y a 7 ans, j'ai proposé à mes salariés, j'aurais dit, écoutez, c'est dommage de faire ces petites actions un petit peu comme ça, pourquoi ne pas avoir un projet, un vrai projet citoyen que nous pourrions monter tous ensemble. Et nous avons réfléchi, nous sommes partis sur le fait qu'il fallait que ce soit un sujet positif, qui bien sûr correspondent à nos valeurs et qui marchaient bien sur les réseaux sociaux. Et nous avons eu plusieurs sujets. Et le premier sujet qui est sorti, c'est le football féminin.
Quelle était votre réaction ? Vous connaissiez dans le foot ?
Je vous avoue que je n'en avais même jamais entendu parler. Donc, j'ai été surprise.
Incroyable.
J'ai dit, c'est le premier sujet qui sort, je vais aller voir un match. Et le hasard a fait que le premier match qui arrivait, c'était un match à Lens. Bien entendu, je ne connaissais pas Lens, je ne savais pas que c'était emblématique. Et c'était le match France-Pologne. Donc j'y suis allée avec un ami. Et là, j'ai vu un beau match. Je comprenais les règles. C'était fluide. Il n'y avait pas de carton. C'était tout ce que finalement j'aimais.
Toutes les valeurs aussi.
Toutes les valeurs, voilà. Et je suis sortie de là. En plus, une ambiance, le stade était plein. Moi, j'ai cru que c'était tout le temps comme ça après, mais le stade était plein. Il y avait des familles, c'était très sympa. Et je suis sortie de là, mais complètement emballée. Et je me suis dit, oui, c'est génial. Après, nous avons un petit peu
progressé. Donc, vous êtes emparée du sujet. Vous avez dit, OK, on y va pour le foot.
On y va pour le foot. On a regardé quand même que, d'un côté, il y avait un capital sympathique pour ces joueuses. Mmh. Mais qu'en même temps, il n'y avait pas de médiatisation.
On n'en entendait pas parler.
Voilà. Donc, on s'est dit, allez, on y va. On va faire la promotion de ces footballeuses. Et plus largement, parler égalité femmes-hommes et mixité sociale.
Alors, qu'est-ce que vous aviez mis en place ?
Alors, nous avons commencé tout de suite par créer un site internet en parlant de ces footballeuses, donc des footballeuses au niveau international, des footballeuses qui étaient emblématiques, qui étaient engagées. Là aussi, ça nous plaisait bien. Et ensuite, nous avons monté des événements. Et le premier événement que nous avons souhaité monter, c'était de solliciter une quinzaine de clubs et de faire la photo d'un footballeur et d'une footballeuse. Tous les clubs ont été partants. J'étais étonnée. Je dis, c'est génial. Maintenant, il n'y a plus que la photo à faire. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que dans un club, il y a la partie sport féminin, enfin le foot, foot pour les femmes, et puis la partie foot professionnel pour les hommes. Et je ne savais pas que c'était complètement séparé.
Il y a eu des réticences.
Ces photos de mettre ensemble un footballeur et une footballeuse, mais ça a été extrêmement compliqué. On a réussi, parce qu'en général, je ne lâche pas les choses. Mais donc, on a réussi avec comme parrain Lilian Thuram et Marinette Pichon comme marraine. Ça a commencé comme ça. Puis ensuite,
donc ça, c'était en 2012. Au fur et à mesure.
Et nous avons continué à faire un certain nombre d'événements.
Mot de l'évolution justement du football féminin, ça passe aussi par le professionnalisme et justement, le plus grand club du monde va enfin créer une section féminine.
Oui, le fameux Real Madrid hein, qui a annoncé il y a quelques jours que le club allait lancer son équipe féminine. Ce sera en 2020, donc l'an prochain. Ils ont officialisé cette nouvelle avec le rachat et la fusion du club Deportivo Tacón, qui évoluait en première division espagnole féminine. Le foot féminin en Espagne, il est en plein essor. Finalement, le Real est simplement en train de s'inscrire dans cette dynamique. C'est pas les premiers à le faire. Et sachez que la Fédération de foot espagnole a annoncé qu'elle allait consacrer 20 millions d'euros directement pour le football féminin pour la saison 2019-2020.
Hélène Valade, que dites-vous à Marianne Gazzo, présidente de Footdel, de tout ce qu'elle a mis en place, alors qu'à la base, il faut le rappeler, elle n'y connaissait rien en foot?
C'est comme moi, mais voilà, on progresse et puis on s'enflamme pour les sujets, surtout ceux qui peuvent faire disparaître un certain nombre de stéréotypes. Vous faites des événements, vous faites des reportages, vous organisez ça aussi avec les entreprises. Et est-ce que vous avez l'impression qu'au sein des entreprises, ça bouge sur cette question?
Alors, oui et non. Alors, c'est nouveau comme sujet. C'est-à-dire que nous avons un événement qui s'appelle Footworking, où tous les ans, nous montons un certain nombre, un tournoi et nous allons chercher les entreprises et des footballeuses qui n'existent pas. Il n'y a aucune équipe, quasiment aucune équipe de footballeuses. Voilà, tout est à construire. Donc, j'y vais avec mon bâton de pèlerin et j'essaye de les convaincre de monter une équipe pour ce tournoi. Donc, il y a quand même le frein. Pas mal des femmes qui se disent « Ah, mais j'ai jamais joué au foot, je vais pas y arriver. »
Donc, autocensure directe.
Autocensure directe. Et de l'autre côté, côté direction, de dire « Oui, non, mais on n'a pas d'équipe, donc ça va être compliqué. » Donc, voilà. Mais à chaque fois, on y arrive. Et une fois que ces femmes ont participé...
Mais comment vous y arrivez?
Eh bien, c'est à force de discuter.
Il faut parler, il faut prendre du temps.
Oui, il faut prendre du temps. On essaye aussi d'identifier une femme qui a déjà pratiqué le foot ou qui pratique le foot. Alors là, ça nous aide un peu plus. Mais j'avoue que c'est compliqué, ça demande énormément de temps. Mais une fois qu'elles ont participé à Footworking, mais alors il y en a qui continuent à jouer, à pratiquer, ça les transforme complètement.
Maud. Non, je voulais juste dire qu'il y a une équipe de foot féminine à Europe 1,
oui,
à la rédaction d'Europe 1. Donc voilà, déjà une équipe pour vous potentiellement.
Parfait, c'est noté. Je prends note.
Votre objectif, c'est de valoriser la mixité aussi.
Oui.
Donc dans vos tournois de footworking, est-ce que vous montez aussi des équipes mixtes?
Alors au début, ce n'était que les femmes. Et il y a 3 ans, nous avons ouvert ce tournoi aux hommes. Donc, ce sont les équipes féminines qui invitent des hommes à participer à ce tournoi. Et c'est vraiment génial parce que les hommes jouent le jeu.
Ce sont des
exactement. Tout se passe très très bien. Il y a une convivialité incroyable. Et puis ensuite, nous avons ce tournoi et ensuite nous avons une table ronde. Donc voilà, nous faisons intervenir tout le monde.
Et voilà. Ça et vous, depuis Lens Pologne, vous êtes mise au foot?
Eh bien, écoutez, oui.
Ah,
voilà. Donc,
comme quoi,
évidemment,
bravo.
Sésame à son équipe de foot.
Donc, votre entreprise.
Voilà. Et depuis l'année dernière, mon équipe, sauf moi, s'y était mise. Et là, ils m'ont dit, non, mais attends, voilà, Marianne, là, tu dois être avec nous. Donc, depuis janvier, je joue. Et c'était tellement bien ce footworking, là, en début janvier, que tous les mois, nous avons une séance avec Sandrine Dussang, une ancienne internationale, qui nous coach pour pratiquer ce foot. Et on adore tous.
Allez, on continue à parler foot. On reste ensemble sur Europe 1.
Il est 13h20.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Imaginez des matchs de foot mixtes et paritaires, des femmes et des hommes qui y jouent ensemble. Ça existe, c'est organisé. Restez avec nous.
Ce vendredi, dans La France bouge, on parle du football féminin et mixte avec vous, Elisabeth Assayag, et vos invités. Quelles sont les initiatives pour mettre en avant ce sport en France? Eh bien, si vous en connaissez ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Mettre un carton rouge aux inégalités, c'est ce que vous faites. Adrien Fulda, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de Les Sportifs Veux. Hein, c'est-à-dire sportif.ve.s. Hein. Ce sont des matchs de foot mixtes réguliers pour les Parisiens, pour l'instant, âgés de plus de 18 ans. Et ça existe depuis un an seulement.
Voilà, exactement. Donc on a lancé, effectivement, nous on dit les sportives et les sportifs, et plus facilement les sportives. Donc effectivement, l'idée est venue...
D'un homme donc ?
D'un Vous homme, effectivement, moi, parce que j'ai joué au foot en dilettante dans ma jeunesse. Moi aussi, je faisais partie des petits garçons qui jouaient à la récré au foot. Et en fait, j'ai toujours pratiqué en fil rouge, on va dire, toute ma vie. Moi, j'avais l'opportunité, parce que j'étais un garçon, d'avoir d'autres gars qui me proposaient des matchs régulièrement, dans des équipes ou pas, pour des matchs amicaux. Et en fait, il s'avère que...
vous avez beaucoup de copines.
J'ai beaucoup de copines. Et donc, j'ai notamment des copines qui jouent au foot. Quand je leur propose de venir, parce que elles, donc les filles, ont moins d'opportunités de jouer, parce qu'elles n'ont pas cette bande d'amis qui leur proposent de jouer. Donc, quand moi, je leur propose, à chaque fois sur le terrain, il y a toujours une petite remarque en arrivant de « Ah, ok, t'as dit que tu ramenais quelqu'un. Ah, mais c'est une fille. D'accord. Ouais. » Donc, est-ce qu'elle va savoir ce que c'est qu'un ballon? Est-ce qu'elle va le prendre avec les mains? Est-ce qu'elle sait jouer au foot? Bon, il s'avère qu'en l'occurrence, c'était des filles qui jouaient régulièrement, qui jouaient très bien, et puis assez vite, elles se faisaient leur place. Mais il y a eu, donc, il y avait toujours une petite remarque, que ce soit juste de la surprise, en fait, parce que c'est
la
pas naturel.
La surprise ou un peu de cynisme, quand même.
Voilà, des remarques un peu macho.
Elles n'étaient pas forcément les bienvenues, parce que c'est pas anodin de ramener une fille dans un match de foot. Et vous, quand vous proposez à vos copines, elles réagissent comment?
Eh ben, elles sont souvent contentes de pouvoir jouer, en fait. Parce que trouver un espace de jeu à Paris, bon, en l'occurrence, parce que je suis parisien, eh ben, c'est pas évident. Et c'est pas juste trouver un espace de jeu, c'est aussi trouver un espace de jeu amical, parce que peut-être qu'il existe des clubs féminins, mais c'est des clubs compétitifs. Aujourd'hui, jouer pour le loisir, pour se détendre, pour se remettre au sport, ben, ça n'existe pas vraiment, en fait.
Alors, vous vous êtes dit, je vais lancer une idée de match de foot mixte, et donc vous êtes allé sur Facebook, vous avez créé un groupe, comment...
En fait, c'était très simple et très humble au départ. On s'est dit, je me suis dit, bon, je vais proposer aux filles et aux gars qui m'entourent de jouer. Puis on va réserver un terrain, puis on va jouer une fois, puis on verra si ça se passe bien, si les gens apprécient, etc.
Et là ?
J'ai trouvé 10 personnes, effectivement, en mettant un petit post sur Facebook. Il y a eu tout de suite 10 personnes qui sont venues jouer.
Donc
et
vous organisez, très bien passé. Vous organisez des équipes, vous voyez que ça prend de l'ampleur ?
Donc alors, au début, c'était vraiment très simple. On organise deux équipes le jour J, on joue, puis tout de suite, les gens apprécient. Donc on se dit, bon, on refait ça mercredi prochain. Puis mercredi d'après, il y a des nouvelles personnes qu'on connaissait pas qui viennent et qui nous disent ah d'accord, bon, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Et puis nous, on est là, mais en fait, on a juste organisé ça avec des amis. Il n'y avait pas à ce moment-là de notion de long terme ou d'inscription. On s'est dit que ça valait le coup, en tout cas, de pérenniser la chose et de s'inscrire un peu plus dans la durée. Et petit à petit, on a organisé donc, des équipes. Et donc,
c'est vraiment paritaire ou...
Et donc, c'est paritaire sur le terrain. C'est-à-dire que nous, on joue en foot 5 contre 5. Donc, c'est un peu particulier. On ne joue pas au foot 11 comme les Bleus ce soir. On joue en foot 5 contre 5 parce que 5 joueurs, on touche beaucoup plus le ballon qu'à 11. Donc, on fait des progrès plus rapidement. Parce qu'on peut jouer à l'attaque, à la défense, les terrains sont petits, donc ça permet facilement de s'immerger dans ce sport. Donc 5 joueurs, ça veut dire qu'il y a au moins 2 garçons, 2 femmes sur le terrain, et le cinquième, c'est ou un homme ou une femme.
Hélène Valade.
Moi, je trouve ça génial de donner la possibilité de vivre la mixité, de vivre des expériences de mixité. Alors, ma question, c'est, est-ce que vous allez fonder d'autres associations de ce type ailleurs qu'à Paris ?
Eh bien, c'est effectivement une question qu'on s'est posée. Donc nous, notre but, c'était déjà de se pérenniser. Effectivement, ça fait un an qu'on existe à Paris. On s'est rendu compte que il y a eu du succès. On organise différents types d'activités à la journée, un championnat amical récurrent dans la semaine. Et on s'est dit, pour la rentrée prochaine, qu'est-ce qu'on fait de nouveau, puisqu'il y a de l'engouement. Et on a décidé de lancer des nouveaux sports. Donc en fait, on s'est dit, on fera du volley. On fera du basket, toujours sur ce principe de mixité. On fera du football à 7 contre 7, parce que c'est dehors, parce que ce n'est pas exactement le même sport. Donc voilà, on a choisi d'abord de rester à Paris, d'étoffer un peu nos propositions. Et ensuite, effectivement, ce serait super de pouvoir étendre ça au reste de la France.
Quels sont les profils ? Il y a des couples qui viennent jouer ensemble, des garçons qui n'oseraient pas forcément, parce qu'il y a aussi une image un peu virile du footballeur. Quels sont les profils qui
alors,
viennent chez
sûr, vous? Bien sûr, il y a plein de profils différents, mais si on arrive à en recouper des grands types, donc effectivement, il y a des couples. qui viennent et qui se disent bon bah quelle activité est-ce qu'on peut faire tous les deux
ensemble.
Donc, voilà, ils débutent le foot. On a chez les filles donc des filles qui trouvent pas d'espace où jouer de manière amicale et bienveillante à Paris, non compétitive. Donc elles nous rejoignent. Et puis il y en a qui ont fait du club, qui jouent très bien. On a aussi beaucoup de filles qui en fait ont arrêté le foot au collège vers 12-13 ans parce qu'en fait c'est l'âge où les garçons et les femmes se séparent, on devient non mixte. Et donc à ce moment-là, elles arrêtent. Et donc là, elles se disent bon, bah, moi j'ai pratiqué, j'aimerais reprendre.
Reprendre. Eh bien, on va continuer à en parler, à parler foot en cette journée bleue sur Europe 1 avant les quarts de finale ce soir.
Il est 13h28.
Europe 1. Elisabeth Assayag.
39-21, venez, on vous attend, nous sommes en direct, vos témoignages, vos questions, nos invités sont là pour vous répondre et pour échanger avec vous.
La France bouge, continue jusqu'à 14h avec vous Elisabeth Assayag. Et ce sujet, des initiatives françaises pour promouvoir le football féminin et mixte. On en parle avec vos invités du jour, mais avec aussi les auditeurs bien sûr. N'oubliez pas que vous pouvez nous appeler à tout moment au 39-21 50 centimes la minute ou alors à nous écrire sur europe1.fr.
Oui, France-États-Unis, un événement à vivre toute la journée sur Europe 1. Depuis 13h, nous parlons de ces initiatives qui mettent tout en place, ces Françaises et ces Français qui mettent tout en place pour casser les barrières dans le foot. Nous sommes toujours avec notre coach du jour, Hélène Vallade, directrice du développement durable de Suez et présidente de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, avec Maud Descamps de la rédaction d'Europe 1. Nous sommes avec Nicole Labarre, l'une des pionnières, fondatrice de l'association Liberté aux joueuses, Marianne Gazot, présidente de Footdel, et Adrien Fulda, vous êtes le cofondateur de Les Sportifs Veux. Vous organisez des matchs de foot mixtes pour les Parisiens, on espère un peu partout en France bientôt, et partout en France pour les Parisiens de plus de 18 ans. On a reçu justement des témoignages ou des questions, notamment de Michel qui nous a appelé de Saint-André-de-l'Eure, qui nous dit « Je suis éducatrice sportive dans le foot depuis 10 ans. Des petites filles viennent jouer avec nous. On les mélange avec les garçons pour les matchs et les entraînements. Tout se passe très bien. » Votre réaction, Nicolas Barre ?
Ah bah oui, effectivement, à partir du moment où on leur donne la possibilité de jouer, c'est ce que tu viens de décrire avec l'initiative sur la mixité non compétitive. En fait, la possibilité de jouer, ça, il faut ouvrir et elles vont jouer. Et à partir du moment où on joue, bah on progresse, c'est comme tout, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les apprentissages, tout le monde peut tout apprendre, quoi, fille ou garçon. Et que je crois que le moteur le plus important à préserver, c'est le plaisir. Voilà,
et ça, vous leur apprenez dès le plus jeune âge. Quel va être l'impact, selon vous, de cette Coupe du Monde, justement, sur les mentalités dont nous parlons depuis tout à l'heure ?
Ah oui, c'est extraordinaire.
Il y a quelque chose qui va changer ?
Moi, je fais partie de ces invisibles. C'est-à-dire que moi, si j'ai joué devant 150 personnes en France, même en équipe de France, c'est le bout du monde, bien que j'ai joué devant 50 000 spectateurs à Taïwan. Imaginons 11 millions de personnes. Alors, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être tout ça, mais qui ont vu du football féminin à la télé. Il y a des petites filles qui ont vu des filles jouer, des filles super bien jouer dans une compétition qui est super médiatisée. Des petits garçons vont voir ces filles jouer aussi. Les parents voient ces filles jouer. Donc, il y a trois indicateurs forts. Les petites filles, en septembre, elles vont dire facilement, maintenant, je veux jouer au foot, papa, maman. Deux, les petits garçons, ils vont les voir arriver dans les clubs. Ça ne va pas les surprendre, ils en ont vu plein à la télé. Trois, papa et maman, et surtout maman, ils vont dire oui quand la petite fille dira je veux jouer au foot, parce que ce n'est pas toujours le cas actuellement. Et quatre, avec un tel engouement et telles audiences, TF1 multiplie par 3 l'écran publicitaire.
C'est ça, donc,
il y a un modèle économique à construire.
Oui, Maud, vous avez des chiffres précis sur les audiences.
Ça a été une vraie surprise du côté de Médiamétrie. Exactement, personne ne s'attendait à un tel succès. Près de 11 millions de téléspectateurs face à la Corée du Sud, 10 millions pour le deuxième match face à la Norvège et les huitièmes de finale face au Brésil dimanche dernier. On était à 12 millions de spectateurs. D'accord. Spectatrice et spectateur, c'est important de le souligner.
C'est exceptionnel, mais du coup, les clubs 100% garçons, c'est un peu l'ancien monde. Qui veut répondre ?
Tu veux répondre ?
Marianne Gazot, Nicolas Barre, Marianne Gazot.
Oui, là, maintenant, plus ça va aller, plus tous ces clubs vont intégrer les femmes. Maintenant, il y a encore cette grosse différence entre les professionnels d'un côté, les hommes, et puis les femmes qui sont amateurs. Donc, il y a quand même cette scission, ces deux écosystèmes. Il va bien falloir qu'on avance là-dessus.
Il y a un travail à faire, justement, du côté de cet écosystème-là, Nicolas Barre, de ces hommes
Après, il faut bien comprendre que le football, c'est le sport roi en France. Il y a plus de 2 millions de licenciés et que nos clubs, quand ils sont même que masculins, ils sont confrontés à des problématiques de structure, de créneaux horaires sur des équipements, d'encadrement et de bénévoles.
Les équipements ne sont pas adaptés aux filles.
C'est pas qu'ils ne sont pas adaptés aux filles, c'est qu'ils sont saturés. C'est-à-dire que quel que soit le sport, là, j'ai bien aimé ce que tu disais par rapport à l'ouverture sur d'autres sports, quel que soit le sport, il y a un phénomène structurel et organisationnel sur notre pays qui est la place qu'on donne au sport et comment on organise l'espace pour pouvoir accueillir des nouvelles pratiquantes ou de nouvelles activités. Là, c'est déjà le premier problème et c'est ceux qui vont avoir à régler au mois de septembre, ça va plus être que le problème de mentalité.
La prochaine étape, Hélène Valade.
En tout cas, il y aura un avant et un après cette coupe. Ça, c'est clair et net. Oui, on a vu que même dans les familles, les enfants demandent à leurs parents, on veut regarder le match, etc. Il y a ce sujet de l'audience. Donc, ça veut dire moins de différence aussi de salaire entre les joueuses hommes, les joueuses femmes, pardon, et les joueurs. Oui. Et donc ça va changer le regard que l'on porte vers le sujet. Et donc, ça montre que tout est possible. Moi, je suis stupéfaite qu'on n'y croyait pas.
Mais c'est ça.
Et en fait, ça s'est passé. Ça veut dire qu'il y a quand même derrière une sacrée attente d'égalité et que pour qu'elle s'ancre vraiment, il faut la vivre.
Égalité dans les mentalités, dans les équipements, mais aussi dans l'argent. Vous nous disiez tout à l'heure, Nicolas Barre, que vous n'avez jamais touché un euro sur
le
foot.
Non, moi, quand j'allais en équipe de France, je devais toucher 150 francs à l'époque pour les 3-4 jours. Donc
vous trouvez ça... Et aujourd'hui ?
Et aujourd'hui, elles sont un petit peu plus rémunérées. Mais
un petit peu plus.
Si vous posez la question, et si vous voulez comparer, par exemple, ce que touchait Michel Platini par rapport à ce qu'a touché un Zidane ou ce que touche un Mbappé, vous voyez bien qu'on est bien sur un problème économique et non pas sur un problème que de mentalité. Et c'est donc à la racine qu'il faut créer le goût du spectacle et que des gens regardent. Alors moi, partout où je passe en ce moment, je fais plein d'interventions, je leur dis, même si vous n'aimez pas le football, regardez les matchs parce que ce sera un acte militant, votre audience va être mesurée et ça aura un impact sur la manière dont économiquement des grands acteurs vont s'investir. J'ai envie de dire que la D1 féminine a été donc achetée, entre guillemets, par un sponsor. Mais ça y est, depuis 3-4 jours.
Maud, justement, au niveau des salaires, vous avez des chiffres concernant ces différences.
Il y a du mieux, certes, mais il y a quand même encore de très grosses différences. Les Françaises, les primes prévues là, pour les Françaises du Mondial, c'est 26,6 millions d'euros. C'est le double d'il y a 4 ans, donc évidemment c'est déjà très bien, mais on est quand même très très loin des primes réservées aux hommes. 354 millions d'euros distribués pour la Coupe du Monde masculine en Russie l'année dernière.
Donc, ça veut dire que les filles vont enfin pouvoir rêver de devenir footballeuses, de ne plus s'auto-censurer. C'est ça, finalement, le message que vous faites passer ?
Oh bah oui, complètement. C'est à partir du moment... Bah moi, je rêverais d'être dans les mêmes conditions qu'elles aujourd'hui. Je reviendrai bien sur
Terre pour tout recommencer. Hein.
Ferai comme les garçons. J'aurai un sac de sport tous les jours à la main. J'irai jouer au foot tous les jours. Je m'occuperai que de mes chaussures, de ma santé, du match qui vient, de l'entraînement. Professionnel, partout. Tout ce qui serait en moi serait professionnalisme. Quoi. Bah, moi, je n'ai pas pu vivre ça. Je suis heureuse pour elle. Franchement, je trouve ça génial ce qui se passe. Vous voyez, j'ai des frissons.
Bah, ça se voit,
c'est fantastique, je suis très très contente et je pense à toutes ces petites filles qui vont pouvoir dire « je peux ».
Merci à vous trois d'être venus nous parler de foot, ni masculin ni féminin, seulement la passion, le plaisir du sport. Merci à tous les trois d'être venus nous en parler sur Europe 1. Il est 13h37.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
175 ans et pas une ride. La marque a inventé le premier pantalon de charpentier, mais aussi la salopette. Elle est toujours leader sur le marché du vêtement professionnel. Lafond est l'entreprise qui va bien, merci.
Europe 1.
De 13h à 14h, vous êtes avec Elisabeth Assayag pour La France Bouge. Et il est temps d'acquérir une société spécialisée dans le vêtement professionnel. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Bonjour Alexandra Havard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes...
Merci de votre invitation.
La directrice de la marque Lafond. Lafond est née à Lyon. C'est Adolphe Lafond qui invente... Le vêtement pour les métiers, les vêtements professionnels.
Le vêtement métier, effectivement. En 1844, le vêtement des charpentiers, à la base. Et aujourd'hui, le vêtement qui est destiné à tout corps de métier, les industriels, les transporteurs, les artisans. Et d'ailleurs, une actualité toute chaude, c'est aussi la marque qui habille les compagnons de devoir et les meilleurs ouvriers de France, tous métiers confondus.
Alors, ce sont des vestes, des pantalons. On en a là... Si vous nous regardez sur europe1.fr, vous nous en avez apporté. D'abord, ils sont très très doux, je tiens à le dire. Est-ce que vous pouvez nous les décrire là ?
On a une
combinaison et vous avez aussi mis la fameuse veste qui est quasiment une veste qu'on pourrait porter tous les jours.
C'est ça. Donc Lafont a inventé la salopette de travail. On connaît la salopette qui a été portée par Sophie Marceau dans La Boum, par Coluche. Donc c'est vraiment la marque qui a inventé cette pièce phare et iconique aujourd'hui.
Oui, enfin ça c'était pour le cinéma, mais pour le métier.
Et pour le métier, la combinaison. Oui. Le pantalon du charpentier et la veste métier. Donc là, nous avons la combinaison, effectivement, qui est développée dans un tissu coton moleskine, très doux, mais également très résistant, puisque la sécurité, la protection sont quand même les bases
C'est ça.
Fonctionnelles d'un vêtement professionnel. Donc la durabilité.
Alors, qu'ont-il justement de si particulier, puisque vous dites, ce qui est pris en compte, c'est la sécurité du corps. Hein, je crois que le bas est resserré. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec un vêtement, entre guillemets, classique?
Alors, pour le pantalon du charpentier, historiquement, effectivement, c'était le bas qui était resserré pour éviter tout risque d'accrochage. Mais en général, sur un vêtement professionnel, on fait attention aux risques métiers, aux normes, effectivement, de chaque métier, à la sécurité, à l'ergonomie également, donc la fonctionnalité également. Et ceci est apporté par la matière, mais également par le patronage, donc les patrons des vêtements.
Alors, vous êtes né en 1844, on va revenir un petit peu en arrière. Vous êtes toujours ici, et tant mieux. Ça n'a pas été toujours rose. Hein. L'entreprise a connu des hauts et des bas. Dans les années 90, vous avez toujours produit en France jusque dans les années 80. Et dans les années 90, vous avez dû délocaliser, aller à l'étranger. Vous étiez au bord de la faillite, hein, c'était pas forcément ça. Que s'est-il passé? Comment avez-vous su résister?
Alors, c'est l'histoire d'une entreprise qui est passée d'une entreprise familiale à une entreprise qui était détenue par un fonds d'investissement depuis les années 90 jusqu'en 2016 à peu près. Et on sait tous que lorsqu'il y a une logique financière, il y a effectivement moins de vue d'ensemble et de constance en termes de stratégie et une stratégie qui est beaucoup basée sur la réduction de coûts, sur des marges opérationnelles et beaucoup moins sur le capital de marque, l'investissement
sur
et
la qualité. Oui.
Exactement.
Donc c'est à ce moment-là que vous délocalisez à l'étranger?
C'est à ce moment-là, dans les années 90, mais ça a touché l'ensemble de l'industrie textile, hein, pas uniquement que Lafont. Mmh. Et ensuite, jusqu'en 2016, il y a eu la gestion financière de l'entreprise qui a amené la marque dans une situation assez difficile, effectivement.
Donc 2016, vous êtes rentré dans le giron d'un groupe familial qui aussi fabrique du vêtement professionnel, c'est le groupe Sepovet. Et c'est ce groupe-là qui a sauvé la marque de la faillite.
Exactement, tout à fait. C'est le groupe Sepovet, qui est un groupe familial indépendant qui a investi dans la marque depuis 3 ans afin de redonner à la marque l'aura qui a été connue depuis 1844.
Alors, vous êtes resté sur les fondamentaux, sur le vêtement métier, et vous vous êtes diversifié.
C'est exactement ça. Vêtements métier qui monte en gamme avec des tissus français, avec des produits de plus en plus innovants et également une diversification.
Quel genre de produits ?
Des produits innovants et ergonomiques, des nouvelles matières.
Donc des matières.
Des produits. C'est ça. Sur la partie matière et la partie patronage également. Style également, parce que le vêtement professionnel est quand même à une dimension sociale importante. Donc c'est une deuxième peau. Hein. C'est vraiment une manière de véhiculer une image d'entreprise et un statut du salarié. Donc l'aspect sociétal est très important.
Et vous avez renouvelé, je crois, 90% de vos collections depuis 3 ans, depuis 2016.
C'est exactement ça. 90% des collections professionnelles ont été renouvelées. Et cette année, on a également lancé une collection grand public.
On pourra tous acheter la fameuse veste ou la fameuse salopette. Que dit notre coach Hélène Valade?
Je crois que vous utilisez aussi des matières recyclées pour fabriquer vos vêtements professionnels. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça participe à l'économie circulaire. Ça adresse l'enjeu de la protection de la ressource. Et vous êtes même en train de commencer à mettre en place une filière de réemploi des vêtements professionnels, c'est bien ça?
C'est exactement ça.
Tout lu, Hélène.
Je trouve qu'il faut le porter à la connaissance de tous, parce que c'est justement en faisant ça qu'on va vers l'économie circulaire et qu'on adresse les enjeux du réchauffement climatique et de la raréfaction des ressources. Donc vous y contribuez. En plus, c'est des vêtements qui sont portés par des professionnels dans des entreprises, donc sont presque des médias d'une autre façon de faire.
C'est exactement ça. Les matières alternatives représentent un sujet qui est un sujet extrêmement important, d'ailleurs pour tous les métiers, pas uniquement pour le grand public. L'année dernière, on a lancé le premier produit 100% France de la matière première jusqu'à la réalisation du produit à Saint-Étienne dans nos ateliers.
Donc, parlez-en au directeur de développement durable, on vous aidera à en mettre partout.
Ah, il y a peut-être des points à faire. Maud, une dernière petite question.
Non, mais je vous avais parlé de votre ligne pour tous et justement, je me suis posé la question en voyant cette magnifique veste. Est-ce que des gens viennent vous voir pour justement porter ces vêtements tous les jours et pas seulement pour le travail?
Tout à fait. Il y a des vêtements Lafond qui sont portés tous les jours, d'ailleurs qu'on retrouve sur le site de toujours.com et la nouvelle collection de Louis-Marie de Castelbajac qu'on a réalisée en collaboration avec Louis-Marie de Castelbajac. Les pièces qui sont là, qui sont disponibles sur le site internet et dans des concept stores. Donc, effectivement, on peut avoir accès aux produits durables et fonctionnels.
Des produits durables, des produits pour tous et des produits métiers. Merci, merci Alexandra Avram d'avoir su nous parler avec autant de passion de Lafond, l'entreprise qui va bien. Merci.
Il est 13h48.
Europe 1, Elisabeth Assayag.
Canicule, jour 5 des jardins à réserver pour bénéficier d'un peu d'air. C'est la solution du jour. Restez avec nous sur Europe 1.
Vous l'avez forcément remarqué, il fait chaud, très chaud même. Oui. Alors dans la France bouge d'Elisabeth Assayag ce vendredi, Maud Descamps a trouvé la solution pour mieux vivre cette canicule.
Mais oui, parce qu'en cette période de canicule, pourquoi ne pas louer des jardins ou les réserver pour bénéficier d'un peu d'air frais, Maud Descamps?
Mais oui, avec la semaine qu'on a connue de canicule, c'est vrai que dans les grandes villes, on en a bien besoin de se mettre au frais. Il y a donc une idée, un site qui existe, un peu comme un Airbnb, on peut louer un jardin pour aller se mettre au frais. Et c'est vous qui avez eu l'idée de ce site internet, Pascal Krief. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment ça fonctionne?
Bonjour Pascal Krief.
Bonjour à tous. Alors jardinprivé.com est une plateforme internet de location et de partage de jardins entre particuliers. Donc on peut réserver un jardin pour une journée, un après-midi ou une soirée. Si on souhaite faire une soirée barbecue avec des amis, un vin d'honneur, un mariage aussi, puisque nous avons des jardins d'exception. Mais il y a, au-delà de la partie location, la partie partage qui a été lancée l'année dernière et qui permet à des personnes qui n'ont pas de jardin de pouvoir faire entretenir leur jardin par un particulier qui va venir chez elles, entretenir le jardin et en échange, le propriétaire va lui laisser la jouissance du jardin quelques jours par mois.
Alors si par exemple, ce soir, j'ai besoin d'un jardin pour mettre un peu au frais, comment on fait?
Alors vous allez sur la plateforme jardinprivé.com, vous sélectionnez en fait, en fonction de votre région ou de votre ville, les jardins qui vont apparaître sur la plateforme. Vous rentrez en relation avec le propriétaire, vous lui expliquez le type d'événement que vous souhaitez organiser et en fonction de sa réponse, vous réservez directement sur la plateforme.
Et alors, ça coûte combien, grosso modo, de louer un jardin pour une soirée?
Alors, ça dépend en fait de la localisation du jardin. Nous avons de belles terrasses parisiennes avec vue sur la Tour Eiffel. Forcément, ce n'est pas le même prix qu'un jardin qui va être à 200 km de Paris.
C'est combien une terrasse à Paris?
Alors, ça peut varier entre 300 et 500 euros la soirée.
D'accord.
Voilà. Donc vous réservez le jardin sur la plateforme, vous rentrez en relation avec le propriétaire et en fonction en fait de la localisation du jardin, des équipements qui sont mis à disposition, du nombre de participants aussi, le prix est déterminé par le propriétaire. Nous laissons au propriétaire en fait le choix de définir la tarification du jardin.
Que dit notre coach Hélène Valade?
C'est un modèle économique qui ne repose plus sur la propriété, mais sur la valeur d'usage. C'est en plein boom. C'est un peu le modèle de Blablacar, si je comprends bien ce que vous dites. Et quelles sont vos perspectives de développement? Parce qu'elles doivent être intéressantes.
Alors, nous, c'est un concept nouveau. Donc, on ne loue pas son jardin comme on loue sa maison. Il faut que ça entre un petit peu dans les us et coutumes. Mais dès que les personnes, les particuliers ont connaissance de ce système, généralement, ils y adhèrent. On a aujourd'hui plus de 2000 participants sur notre plateforme. Effectivement, ça s'inscrit dans une économie de partage, une économie collaborative. Et c'est important parce que dans la démarche, nous souhaitons, nous aussi, chez jardinprivé.com, avoir des valeurs RSE.
Je crois que vous avez lancé il y a quelques jours des locations de jardins où on peut dormir. Ça tombe bien en ce moment. Quel est le principe?
Alors, ce sont nos jardins tiny, en fait.
Jardins comment?
Tiny. Les tiny houses, ce sont de petites maisons écologiques qui nous arrivent. Le concept arrive des États-Unis. Il est très répandu là-bas.
T-I-N-Y.
Exactement. D'accord. Et il permet, en fait, d'avoir une petite maison qui fait entre 20 et 40 mètres carrés, posé dans un endroit naturel et qui peut être totalement écologique, avec de la récupération d'eau de pluie pour l'eau, des panneaux solaires pour l'électricité. Voilà, tout un système qui permet d'avoir ces structures habitables qui sont tout à fait à l'image d'une maison. Il y a une cuisine, une chambre, une salle d'eau, enfin exactement la réplique d'une maison, mais en petit modèle, d'où le terme tiny qui signifie minuscule.
Très brièvement, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire dans un jardin, parce qu'il faut rassurer peut-être aussi les propriétaires.
Alors nous avons une charte de bonne conduite sur la plateforme et lors des réservations, les utilisateurs, les hôtes, s'engage à respecter le jardin du propriétaire, comme le propriétaire s'engage à laisser le jardin, à laisser la jouissance du jardin aux personnes qui vont venir y passer quelques heures. Et il y a aussi un dépôt de garantie qui permet de sécuriser le propriétaire si d'aventure un petit pot de fleurs ou un bout de pelouse a été abîmé.
Jardinprivé.com, c'est la solution du jour. Merci Pascal Krief de nous avoir présenté votre entreprise. Merci à vous Maud Descamps.
Merci
d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Merci à notre coach Hélène Valade. Je rappelle que vous êtes la directrice du développement durable de Suez. Et puis lundi, ce sera une France Bouge un peu spéciale puisque François Hollande prendra le costume du coach et nous aurons avec nous 6 des 12 lauréats 2019 de la Fondation de l'ancien président de la République, fondation baptisée La France s'engage. Là aussi, des solutions qui font bouger les lignes de notre pays.
Merci Elisabeth Assayag, c'était La France Bouge. Bien sûr, votre journée continue avec l'arrivée dans quelques minutes de Christophe Fondelatte. Christophe qui viendra vous raconter une histoire de miracle aujourd'hui, celui de sœur Bernadette Moriot, la 70e miraculée de Lourdes. Très bon vendredi avec Europe 1, il est 13h57.